Alors, je vous invite à trouver encore le livre de Genèse, vers la fin du livre. Nous continuons aujourd'hui avec l'histoire de Joseph, fils de Jacob. Ce Joseph, qui deviendra, avant la fin du livre, premier ministre de l'Égypte. Ce Joseph qui sera ainsi une bénédiction aux nations, comme Dieu avait promis à son arrière-grand-père Abraham. Et nous avons vu jusqu'à là une trajectoire interpellante pour ce jeune homme, une trajectoire d'obstacles et de réussites et de croissance spirituelle et encore d'obstacles. Dimanche dernier, nous avons laissé Joseph, si vous vous souvenez, en prison. Dimanche d'avant, il était simplement esclave et Dieu lui a permis de devenir responsable dans la maison de Potiphar. Mais Dieu a aussi permis qu'il soit par la suite accusé injustement d'un crime et qu'il se trouve ainsi maintenant non pas juste esclave, mais esclave en prison. Mais vous savez, puisqu'on en parle depuis le début de cette histoire, et l'histoire est bien connue, Dieu ne va pas laisser Joseph en prison. Au contraire, il va servir de cet emprisonnement pour faire connaître Joseph au pharaon. Et du coup, toute cette histoire devient un exemple archétypique du verset en Romains 8, 28. Vous le connaissez, vous pouvez peut-être le citer à haute voix. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ou bien, si vous voulez, c'est aussi un exemple archétypique de ce que Joseph lui-même va dire à ses frères, ceux qui l'ont vendu en esclavage, au chapitre 50, verset 2 de ce livre. Joseph va dire, « Vous avez projeté de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Toute l'histoire de Joseph et de tous les patriarches, en fait, Abraham, Isaac, Jacob, c'est en fait l'histoire d'un Dieu qui est en train sans cesse de transformer le mal en bien. On pourrait dire même que c'est l'enseignement principal de toute cette histoire, les prochains chapitres en particulier, même de toute la Bible. Parce qu'ici, aujourd'hui, on va voir Jacob... On va voir Joseph devenir responsable de l'Égypte, la main droite du pharaon. En même temps, au centre de cette histoire, il y aura plusieurs rêves prophétiques. Joseph en a déjà eu au chapitre 37, et maintenant il va interpréter les rêves des autres. Du coup, aujourd'hui, nous aurons aussi l'occasion de regarder la relation entre la providence de Dieu et sa révélation à nous, surtout la révélation prophétique. Et ce qu'on verra, en gros, c'est que quoi qu'il arrive, Dieu reste au contrôle. Parfois, il nous en explique une partie par un moyen extraordinaire, une vision, un rêve, quelque chose comme ça, et parfois non. Mais quoi qu'il arrive, c'est lui qui dirige, que nous le voyons ou pas. Les rêves prophétiques sont en fait un sujet d'actualité, parce que ça nous arrive toujours. Ce n'est pas juste quelque chose pour les temps bibliques. Ça nous arrive dans cette assemblée même. Comme le prophète Joël, que les apôtres ont cité le jour de la Pentecôte, avec la venue du Saint-Esprit, on lit dans les derniers jours, c'est Actes chapitre 2, verset 17, « Dans les derniers jours, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Actes 2, 17. Et ce n'est pas juste les vieillards. J'étais très encouragé récemment par le rêve d'un jeune homme dans cette assemblée. Et ça soulève alors la question que soulève toute prophétie, comment la comprendre et comment y réagir. À travers cette histoire aujourd'hui, nous allons considérer ces questions. Le passage lui-même nous en donnera quelques indices, mais nous allons aussi nous appuyer sur d'autres passages bibliques qui donnent un enseignement explicite sur la question de la prophétie et des rêves prophétiques. Là, aujourd'hui, l'histoire dont nous parlons, ça se déroule au chapitre 40 et 41. Nous n'allons pas lire l'ensemble des deux chapitres, mais quelques passages clés. On va commencer au début du chapitre 40. Et comme je l'ai dit au début, nous avons laissé Joseph en prison. Du coup, voici la suite. Chapitre 40, verset 1. Après cela, le responsable des poissons et le boulanger du roi d'Égypte commirent une faute envers leur seigneur, le roi d'Égypte, le pharaon. Le pharaon fut irrité contre ces deux officiers, le grand responsable des poissons et le chef des boulangers. Il les fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, à l'endroit où Joseph était enfermé. Le chef des gardes les confia à Joseph, qui fit le service auprès d'eux. Ils passèrent un certain temps en prison. Une même nuit, le responsable des poissons et le boulanger du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, firent tous les deux un rêve, chacun le sien, avec son explication propre. Joseph vint le matin vers eux et vit qu'ils étaient tristes. Alors il demanda aux officiers du pharaon qui étaient avec lui dans la prison de son maître, « Pourquoi avez-vous mauvaise mine aujourd'hui ?» Ils lui répondirent, « Nous avons fait un rêve et il n'y a personne pour l'expliquer. » Joseph leur dit, « N'est-ce pas à Dieu qu'appartiennent les explications ? Racontez-moi donc votre rêve. » Et puis, ça continue. Alors, avant de continuer, notons encore que sans que Joseph le sache, Dieu est en train de mettre en place les choses qui lui permettront de sortir de la prison. De l'extérieur, si vous ne connaissez pas l'histoire, il est impossible de voir comment ça va se passer. Mais si vous connaissez l'histoire, vous savez que ce qu'on vient de voir, c'est le début de ce qui va lui permettre de sortir du prison. Si vous connaissez pas l'histoire, c'est impossible de le voir. Mais pour Dieu, qui voit tout et qui peut tout faire, la séquence est évidente depuis le début. C'est comme un jeu d'échecs. Un maître peut planifier 8 ou 10 mouvements en avance. Moi, quand je joue aux échecs, je fais la prochaine étape et c'est tout. Mais un maître peut imaginer toute la séquence. Et du coup, il commence à mettre en place tout ce qu'il faut depuis le début. Mais pour quelqu'un qui ne joue qu'un petit peu, ce que le maître fait au début, c'est du non-sens. C'est impossible de le déchiffrer. Ici, Joseph, il n'essaie même pas de déchiffrer les mouvements de Dieu. Il est trop sage pour ça. Joseph répond tout simplement à la tâche que Dieu a mise devant lui. Du coup, il va interpréter les rêves de ces deux personnes. Ces interprétations se montrent correctes. L'un d'entre les deux est exécuté. Et l'autre est remis à sa place dans le palais du pharaon. Et Joseph demande simplement que celui qui va revenir au palais se souvienne de lui au pharaon. Mais si on saute au dernier verset de ce chapitre, verset 23, nous lisons « Le grand responsable des poissons ne se souvint pas de Joseph, il l'oublia. » Alors jusqu'à là, Joseph a passé à peu près 10 ans en Égypte en tant qu'esclave et en tant que prisonnier. Et maintenant, il semble avoir eu une chance pour y sortir. Mais cet homme l'a oublié. Quelle déception. Je ne sais pas si vous avez vécu ce genre de déception, peut-être, dans votre vie, même récemment. Vous pensez voir le chemin devant vous, et puis ça s'est évanoui. Et ici, c'est parce qu'un homme l'a oublié. Les hommes oublient, mais Dieu n'oublie pas. Dieu n'oublie pas. Par contre, parfois, il attend. Et là, Dieu va attendre encore 2 ans avant de débloquer la situation. Chapitre 41. Au bout de 2 ans, le pharaon fit un rêve dans lequel il se tenait près du fleuve. Alors, 7 vaches belles et grasses sortirent du fleuve et se mirent à brouter dans la prairie. 7 autres vaches laides et maigres sortirent du fleuve après elles et se tinrent à côté d'elles au bord du fleuve. Les vaches laides et maigres mangèrent les sept vaches belles et grasses. Puis le pharaon se réveilla. Il se rendormit et fit un second rêve. Sept épis gros et beaux montaient sur une même tige. Sept épis maigres et brûlés par le vent d'est, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les sept épis gros et pleins. Puis le pharaon se réveilla. Voilà quel était le rêve. Le matin, le pharaon eut l'esprit troublé et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses rêves, mais personne ne put les lui expliquer. Et là, on ne va pas lire tous les versets, mais c'est à ce moment-là que le responsable des boissons se souvient de Joseph et raconte son expérience au pharaon. Verset 14. Le pharaon fit appeler Joseph. On s'empressa de le faire sortir de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers le pharaon. Le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Joseph répondit au pharaon, « C'est pas moi. C'est Dieu qui donnera une réponse favorable au pharaon. » Puis, pharaon raconte ses rêves. Et au verset 25, Joseph répond. Verset 25. Joseph dit au pharaon, ce qu'a rêvé le pharaon correspond à un seul événement. Dieu a révélé au pharaon ce qu'il va faire. Les sept belles vaches sont sept années, et les sept beaux épis aussi. C'est un seul rêve. Les sept vaches décharnées et laides sorties après les premières sont sept années. Tout comme les sept épis vides brûlés par le vent d'est. Ce sont sept années de famine. C'est comme je viens de le dire au pharaon. Dieu montre au pharaon ce qu'il va faire. Il y aura sept années de grande abondance dans toute l'Égypte. Sept années de famine les suivront. Et l'on oubliera toute cette abondance en Égypte. La famine détruira le pays. Cette famine qui suivra sera forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si le pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. Maintenant que le pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête de l'Égypte, que le pharaon établisse des commissaires sur le pays pour prélever un cinquième des récoltes de l'Égypte pendant les sept années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années à venir, qu'ils amassent sous l'autorité du pharaon du blé et des vivres dans les villes et qu'ils en aient la garde. Ces provisions formeront une réserve pour le pays, pour les sept années de famine qui frapperont l'Égypte, afin que le pays ne soit pas détruit par la famine. Ces paroles plurent au pharaon et à tous ses serviteurs. Le pharaon dit à ses serviteurs, « Pourrions-nous trouver un homme tel que celui-ci, qui a en lui l'Esprit de Dieu ?» Et le pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. » Tu seras responsable de ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Le pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de toute l'Égypte. Le pharaon retira l'anneau de son doigt et le passa au doigt de Joseph. Il lui donna des habits en fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'entrait devant lui, à genoux. C'est ainsi que le pharaon lui donna le commandement de toute l'Égypte. Il dit encore à Joseph, « C'est moi qui suis le pharaon, mais sans ton accord, personne ne lèvera la main ni le pied dans toute l'Égypte. » Amen. Voici la puissance de Dieu, la souveraineté de l'Éternel. Au début du chapitre, Joseph est oublié en prison. À la fin, personne ne lèvera la main dans toute l'Égypte sans son accord. Tu penses aujourd'hui peut-être que tu es oublié, que Dieu t'a oublié, mais ce n'est pas le cas. Il te voit là où tu es et il fait ses mouvements. Il est le maître du jeu. Il ne va pas le perdre. Il est le maître. Et il n'a pas oublié. C'est le premier grand enseignement de cette histoire, de toute la Bible même. Et si vous ne retenez rien d'autre aujourd'hui, retenez cela. Les hommes peuvent t'oublier, mais Dieu, non, jamais. Il t'a appelé par ton nom, nous venons de le chanter. Il t'a appelé par ton nom, il sait. Il sait exactement où il t'appelle. Alors, tout le reste de ce qu'on va voir, on doit le voir dans ce contexte, que Dieu sait ce qu'il fait. Pour la deuxième partie, quoi dire par rapport à ces rêves? Peut-être que vous vous dites, ben, effectivement, j'aimerais bien avoir un rêve, ou que quelqu'un d'autre ait un rêve à mon sujet pour être sûr que Dieu ne m'a pas oublié. C'est vrai, ça pourrait être sympa. Mais nous venons de voir que Dieu ne nous a pas oubliés. Quoi dire par rapport à ces rêves, alors? On peut se dire, j'aimerais vraiment voir ce que Dieu a prévu pour moi. J'aimerais savoir. Mais là, tout de suite, nous devons faire un constat. Dans la Bible, Dieu ne donne pas de rêve afin de satisfaire notre curiosité par rapport à l'avenir. On n'a aucun exemple biblique où Dieu révèle l'avenir d'un individu pour ses buts personnels. Dans ce passage aujourd'hui, les rêves du boulanger et du responsable des boissons sont donnés afin que Dieu montre sa puissance et qu'il élève Joseph pour un but très spécifique, qu'il arrive devant le pharaon afin de répondre à ses rêves à lui, qui eux seront donnés afin de sauver le pays et surtout d'amener le peuple d'Israël en Égypte, une étape qui sera nécessaire pour sa croissance. Vous voyez, dans la Bible, les rêves sont donnés. Lorsqu'ils viennent de Dieu, ils sont donnés pour servir le grand plan de Dieu, pour avancer son plan. C'est le cas pour les rêves de Joseph lui-même, que nous avons vu au chapitre 37. Oui, ces rêves-là, ils étaient au sujet de Joseph lui-même. Et il révèle un aspect de son avenir. D'une façon ou autre, il va être élevé au-dessus de ses frères. Mais encore, cela fera partie de son rôle dans le projet de Dieu. C'est un principe, en fait, de la prophétie en général dans la Bible. La prophétie sert souvent à avancer notre participation dans l'œuvre de Dieu. Autres exemples, l'apôtre Paul en Actes, lorsque le prophète lui annonce ce qui lui arrivera à Jérusalem, ou pensant à l'ange qui annonce la naissance de Jésus à Marie. Ces révélations servent à orienter la personne dans le projet de Dieu. C'est très important parce que ça fait toute la différence à notre positionnement devant Dieu. Est-ce que je le sers ou est-ce qu'il me sert? Si je le sers, je me soumets à sa volonté, qu'il me la montre d'avance ou pas. Et j'apprends à lui faire confiance sans savoir quoi que ce soit sur l'avenir. Comme dit le chant, je ne connais pas l'avenir, mais je connais celui qui tient l'avenir entre ses mains. Alors, si ça c'est le but principal de la prophétie dans la Bible, et si les rêves servent principalement à faire avancer le projet de Dieu, la question que nous devons toujours poser face à ce genre de choses, c'est comment cette révélation devrait-elle m'orienter sur le projet de Dieu? Et puis, comment devrais-je répondre? Tout d'abord, il faut être clair, tout rêve n'est pas forcément prophétique. N'est-ce pas? Au contraire, surtout si vous êtes quelqu'un qui a tendance à beaucoup rêver dans votre sommeil, la plupart de ce que vous rêvez n'a probablement pas de sens. Ou pas de sens prophétique, en tout cas. Il ne faut pas toujours chercher une explication spirituelle aux choses qui font simplement partie de la vie naturelle d'un être humain. Quand on dort, notre cerveau continue de travailler. Il s'organise, il se décharge, et ainsi de suite. Et parfois, ce processus produit des rêves. Les images produites par un cerveau pendant que le corps dort. surtout quand on fait des rêves en lien avec nos craintes personnelles ou notre stress, c'est souvent simplement notre cerveau qui essaie de se décharger et de faire face à ces choses qu'on cache pendant la journée. C'est un fait biologique et psychologique. Ceci dit, tout comme nos pensées conscientes peuvent être influencées par le Saint-Esprit, et Dieu peut nous parler lorsque nous ne dormons pas, il peut aussi influencer nos pensées lorsque nous dormons. Il peut nous montrer certaines choses de cette manière aussi. Ça arrive souvent dans la Bible, et il ne faut pas l'ignorer. De nos jours, on peut être sceptique par rapport à ça, selon notre culture peut-être. Mais dans la Bible, c'est clair, Dieu révèle certaines choses par les rêves prophétiques. Mais il ne faut pas oublier l'enseignement clair d'1 Corinthiens 12. Ce n'est pas tout le monde qui recevra ce genre de révélation. 1 Corinthiens 12, 29. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils des miracles? Tous ont-ils des dons de guérison? Tous parlent-ils en langue? Non. Et ça veut dire que si tu ne reçois pas un rêve prophétique, ce n'est pas parce que tu n'es pas un bon chrétien. À chacun son don. Que ce soit la foi, l'encouragement, le service ou autre. Joseph a un don très particulier. C'est un don que d'autres peuvent avoir aussi. Mais ce n'est pas tout le monde. Alors, cela dit, même pour ceux qui n'ont pas le don de la prophétie, Dieu peut décider de temps en temps, de temps à autre, à nous parler par un rêve. Et dans ce cas-là, il faut savoir le reconnaître et y répondre. Il faut aussi savoir comment accompagner les autres. Alors, tout d'abord, pour le reconnaître. Franchement, il n'y a pas de formule simple pour reconnaître un rêve prophétique. Désolé. On aime bien les formules simples. La Bible n'en dit pas grand-chose explicitement. Mais d'expérience, nous pouvons dire que c'est en général comme d'autres sortes d'expériences où nous entendons la voix de Dieu, quand Dieu nous parle. Nous la reconnaissons parce que nous reconnaissons la voix de Dieu. Parce que nous reconnaissons la voix de Dieu. Vous connaissez ce que Jésus dit dans l'évangile de Jean. Mes brebis reconnaissent ma voix. Un rêve prophétique va souvent avoir une atmosphère différente qu'un rêve normal. Et la personne va connaître dans son esprit que c'est quelque chose que Dieu lui a envoyé. De la même façon que vous savez, si vous recevez un petit mot de la part de votre épouse, que ça vient d'elle, même si elle ne signe pas. Je n'ai pas besoin que ma femme signe un petit mot qu'elle m'envoie parce que je reconnais sa voix, même dans ce qu'elle écrit. Mais ça veut dire qu'il faut apprendre à reconnaître sa voix. Il faut passer du temps avec lui pour reconnaître sa voix. Deuxièmement, il y a aussi certaines caractéristiques qui sont communes aux rêves qui viennent de Dieu. En général, il y a une certaine logique dans le rêve, même si ça reste un peu bizarre, parce que c'est quand même un rêve, comme tout rêve. Mais on arrive quand même à suivre les événements. Si c'est du chaos, ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu de chaos. En général aussi, un rêve de Dieu ne fait pas peur. Ce n'est pas pour dire qu'on ne verra jamais quelque chose qui pourrait faire peur, mais l'effet sur nous sera plutôt un sentiment d'urgence ou de motivation, mais pas la terreur qu'on aurait dans un cauchemar. Dieu n'envoie pas de cauchemar. Pourquoi? Parce qu'il est présent, il est là. Et la présence de Dieu chasse la peur. Pour les croyants, en tout cas. De même, un rêve de Dieu peut nous interpeller, mais il ne nous couvrira pas de honte. Sa parole nous poussera à la repentance, non pas vers le désespoir. Ça pourrait être une autre expérience si on n'est pas croyant. Mais pour ceux qui ont mis leur foi en Christ, même dans un rêve, il ne peut y avoir de la condamnation. C'est l'unique critère très important quand nous essayons de voir si un rêve, tel ou tel rêve, vient de Dieu ou pas. Dieu ne va pas envoyer un rêve pour nous terrifier ou pour nous couvrir de honte. Alors, comment réagir alors? Surtout à la lumière du fait que ce genre de choses est destiné toujours à faire avancer le projet de Dieu dans nos vies et dans le monde. Quelques conseils pratiques. D'abord, cherchez le discernement. Cherchez le discernement avec d'autres croyants matures. Joseph dit plusieurs fois dans ses chapitres que la compréhension ou l'interprétation, l'explication du rêve vient de Dieu. Et la tentation pour nous tous sera toujours de vouloir y voir ce que nous voulons voir, au lieu de voir ce que Dieu veut nous dire. N'est-ce pas? On veut voir telle ou telle chose, et du coup nous allons avoir tendance à voir ce que nous voulons voir. D'où l'intérêt de demander à quelqu'un d'autre de nous aider, comme le boulanger et le responsable des poissons, et le pharaon aussi. Le principe se retrouve dans le Nouveau Testament, dans l'Église, en 1 Corinthiens 14, 29. L'apôtre Paul écrit « Quant aux prophètes, que deux ou trois parlent, et que les autres évaluent leur message. » Et là, on parle des croyants. Ce n'est pas une insulte que les autres évaluent le message. Tout comme vous devez être en train maintenant d'évaluer ce message. C'est à l'Église d'évaluer les messages pour discerner si ça vient de Dieu ou pas. C'est une obligation pour nous tous. Alors Joseph, lui, il n'a pas la possibilité de consulter avec d'autres personnes parce qu'il n'y a pas de croyants autour de lui. Et il paraît en plus que Dieu a donné à Joseph un don assez particulier qui lui permet de comprendre ses rêves avec une certitude exceptionnelle. Mais pour nous, la parole dit que dans l'Église, par rapport aux dons prophétiques, il ne faut pas les mépriser. C'est 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21. Il ne faut pas les mépriser, mais examiner tout et retenir ce qui est bon. Cela n'est pas juste parce qu'il peut y avoir de faux prophètes, il peut y en avoir et il faut faire attention. Mais même un vrai croyant qui a reçu une vraie révélation de Dieu peut y mélanger ses propres idées. Tout comme un bon prédicateur peut donner un bon enseignement, mais sans le faire exprès, il peut quand même mélanger des idées qui ne sont pas correctes à 100%. Parce que nous sommes des êtres humains. Comme je le cite souvent, 1 Corinthiens 12, 12. Nous voyons comme un miroir, comme dans un miroir sombre et fissuré, de manière peu claire. Et du coup, même l'apôtre Paul dit « Je ne connais que partiellement ». Il nous faut une humilité absolue par rapport à ce genre de choses. Et si jamais le rêve ou la révélation est un autre sujet, il faut être prêt à tout examiner, à retenir ce qui est bon et à ne pas mépriser la révélation. Car quand ça arrive, c'est pour notre bien et pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Comment faut-il réagir alors si on détermine que ça vient de Dieu? Parfois, il faut simplement se laisser fortifier parce que ce qu'on reçoit, ça réanime notre foi et notre espoir en lui. Un rêve ou une prophétie que Dieu nous donne peut servir tout simplement à réconforter le croyant sur son chemin, soit par rapport à l'avenir, soit par rapport au présent. Parfois, il faut simplement se laisser être encouragé et fortifié. Lorsque Dieu dit au prophète Jérémie, par exemple, au chapitre 33 du livre de Jérémie, « Je te révélerai les choses cachées », la révélation qu'il donne par la suite dans le reste du chapitre consiste à montrer l'avenir du peuple d'Israël après l'exil. Mais il n'y a rien à faire pour l'instant, sauf garder l'espoir et rester fidèle. Parfois, cet encouragement n'est même pas par rapport à l'avenir. Ça peut être présent. Je me souviens très bien d'un rêve que l'une de nos filles a fait il y a quelques années. Je ne vais pas le partager parce que c'était un peu personnel. Mais le but de ce rêve était clairement de la rassurer de la présence de Dieu avec elle et de la lui communiquer d'une façon très douce et très forte en même temps. C'était extrêmement encourageant pour nous tous, en fait toute la famille. Ça n'a rien montré sur l'avenir, mais c'était un rêve prophétique quand même, dans le sens où ça révélait une réalité spirituelle. Dieu était avec elle. Et c'est ça la définition biblique de la prophétie. Le mot prophète en hébreu, vous connaissez la définition? Littéralement, le mot prophète en hébreu veut dire celui qui voit. Celui qui voit les choses spirituelles. Le prophète voit quelque chose qui est d'habitude caché, que ce soit l'avenir ou la présente réalité spirituelle. Et parfois, cette réalité, Dieu nous le montre simplement pour que nous puissions être encouragés, que nous restions fidèles. Un rêve prophétique peut presque toujours, en fait, aussi nous pousser à prier. Si Dieu nous montre quelque chose, c'est parce qu'il veut que nous y réagissions. Mais la réaction peut être simplement la prière. En fait, ça doit être toujours la prière. Si je le dis pas suffisamment fort, Didier va me reprocher. C'est toujours la première réponse. Il faut toujours prier. Et parfois, ça suffit. Parce que la prière, c'est notre arme la plus forte. Si Dieu nous montre quelque chose, ça peut être pour orienter nos prières, pour orienter notre combat spirituel, journalier, qui est la prière, comme de l'intelligence secrète qui arrive aux soldats dans le territoire de l'ennemi. Maintenant, il sait où il doit y aller, dans quel sens. Maintenant, tu sais dans quel sens tu dois prier. Mais dans certains cas, la raison pour prier peut être justement pour que Dieu change ce qu'il va faire. L'une des questions qu'il faut poser quand on a un rêve ou une autre vision prophétique, c'est de savoir si c'est une réalité présente ou une réalité future. Mais aussi, si c'est futur, il faut demander, est-ce que c'est quelque chose qui va arriver ou qui pourra arriver, qui pourrait arriver. Joseph fait allusion à cette possibilité au verset 32, lorsqu'il parle au Pharaon. Il dit, si le Pharaon a vu le rêve se répéter, c'est que la décision est ferme de la part de Dieu et qu'il la mettra rapidement en œuvre. L'implication de ce verset, c'est que dans certains cas, ce qu'on voit, quoique prophétique, n'est pas forcément une vision de ce qui sera, mais de ce qui pourrait être. La décision de Dieu n'est pas ferme. Dans l'occurrence, pour le pharaon, la décision est ferme. Mais ce n'est pas toujours le cas. En fait, une grande partie des lits prophétiques dans l'Ancien Testament consiste à des avertissements au peuple et aux nations autour. Des avertissements comme « Si vous continuez à agir injustement envers les pauvres, si vous continuez à adorer d'autres dieux, si vous continuez sur ce chemin, voici ce qui arrivera. » Du coup, la vision n'est pas autant une prédiction, mais un avertissement. L'exemple classique de tout ça, vous connaissez l'histoire de Jonas? Jonas qui est appelé à Ninive. Jonas 3:4. Jonas proclamait, dans 40 jours, Ninive sera détruite. Mais les Ninivites se repentent rapidement. Et du coup, verset 10, lorsque Dieu constata comment les Ninivites réagissaient et abandonnaient leur mauvaise conduite, il renonça à faire venir sur eux le malheur dont il les avait menacés. Ils s'en abstinrent. Vous vous rendez compte? Si nous réagissons aux avertissements de Dieu, il peut retenir son jugement. Dans ce cas-là, la prophétie de Dieu était provisoire et il fallait que le peuple y réagisse, que Jonas réagisse en allant vers le peuple et que le peuple réagisse par la repentance. Un autre exemple typique, c'est le prophète Amos. Le prophète Amos est envoyé par Dieu au peuple d'Israël pour les reprendre et les avertir. Et à un certain moment, la réponse d'Amos est tout simplement de prier pour son peuple. Chapitre 7. On lit, « Le Seigneur éternel m'a envoyé cette vision. Il formait des sauterelles au moment où le regain commençait à pousser. C'était le regain après la coupe réservée au roi. Comme elle dévorait entièrement l'herbe de la terre, j'ai dit, « Seigneur éternel, pardonne donc. Comment Jacob subsistera-t-il? Il est si petit. L'Éternel l'a regretté. Cela n'arrivera pas, a dit l'Éternel. » C'est-à-dire, la vision qu'Amos reçoit n'arrive pas finalement. Elle ne se concrétise pas justement parce qu'elle pousse Amos à prier pour le peuple. Vous voyez la responsabilité que nous avons si nous recevons une vision prophétique et nous prions. Dieu peut changer ce qu'il a prévu. Dieu peut réagir. Alors, la prière face au rêve prophétique. Troisièmement, il faut discerner si nous devons partager le rêve ou pas. En priant et en échangeant avec des croyants matures, comme un responsable de l'église ou autre, on peut commencer à discerner s'il faut faire plus que de prier au sujet de la révélation. Comme l'a fait Jonas et Jérémie et beaucoup d'autres prophètes. Ils n'ont pas juste prié. Après, ils sont allés annoncer. Si le message est pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'il faudra partager. Peut-être que tu ne comprendras pas, mais il se peut que le sens soit évident à l'autre. Sinon, vous pouvez continuer avec le processus de discernement où la personne peut le faire. Sheila et moi, nous avons eu cette expérience dans cette église. Une personne a eu un rêve à notre égard, et la personne ne comprenait pas le sens. Elle nous a partagé tout simplement ce qu'elle a vu. Et nous avons pu discerner assez rapidement ce que Dieu a essayé de nous dire. Et j'ai beaucoup apprécié ce que cette personne a dit à ce moment-là. Elle a dit, je ne comprends pas ce rêve, et je ne sais même pas si c'est important, mais je ressens dans mon esprit que je dois le partager avec vous. Là, il y avait de l'humilité, il y avait une ouverture à l'esprit, il y avait un désir que Dieu agisse. Bref, il y avait une attitude de soumission à Dieu. Car cette personne ne voulait pas se vanter personnellement ou être reconnue des autres, mais elle a accepté simplement d'être le conduit d'un message. Et c'est le dernier point. Et ça nous ramène à la première partie de ce qu'on a vu. Puisque Dieu est souverain, nous pouvons et nous devons recevoir toute révélation ou manque de révélation. Nous devons recevoir dans une attitude de soumission à sa volonté. Parce que c'est lui le maître. Mais il n'est pas juste le maître. Il est aussi notre Père. Et ça veut dire qu'il n'est pas juste souverain, il est aussi bon. Et du coup, nous pouvons lui faire confiance. Nous pouvons nous confier à lui sans crainte. Après, pour Joseph, après son propre rêve, au chapitre 37, il a dû attendre, vous savez combien d'années? 20 ans, pour que le rêve commence à se réaliser. Mais pendant tout ce temps, Dieu ne l'avait jamais oublié. Pas une seule fois, pas un instant. Pendant la période de révélation et pendant la période de silence, Joseph s'est livré totalement à Dieu, parce qu'il savait que Dieu serait totalement, à jamais, fidèle à lui. Et c'est ça notre appel, que nous recevions des rêves, des visions ou pas, que nous nous livrions totalement à ce Dieu qui nous aime et qui est maître de notre vie. Je vous invite à vous lever pour chanter une réponse à ce Dieu.